Merci à tous de venir aussi nombreux à cette conférence avec Pacum Tiagman autour de Lost et de Twin Peaks, des séries sans fin. Ce sera un moment d'échange, de questions. N'hésitez pas à poser des questions dès que vous en avez envie ou que vous ne comprenez pas quelque chose. C'est une conférence qui va durer une heure. Est-ce que tu as d'autres...
Je crois que en fait, le principe, c'est de toute façon que je réponds à des questions plus que je lance les idées. Donc, si vous séchez vraiment, j'essaye de trouver une sorte de question, mais je suis sûr que vous avez déjà des idées. Donc,
Je vais te poser une première question. Comme ça va lancer des hostilités. C'est quoi pour toi une série sans fin?
Oui, c'est l'intitulé qu'on m'a donné. Et c'est vrai que c'est étrange dès l'abord d'associer Twin Peaks et Lost à des séries sans fin, puisque Lost s'est terminé vraiment. Il y a vraiment une fin. Mais quoi, c'est l'idée plutôt de séries très longues et de la question de qu'est-ce qui se joue avec la narration quand on est sur de longues durées. Ou pour Twin Peaks, quelque chose qui reprend 25 ans plus tard, donc avec l'idée qu'en fait on suit un récit qui n'a pas forcément été préalablement prévu. Je crois que ce serait ça en fait l'idée, c'est de... Il y a des conceptions très différentes là-dessus et j'ai souvent entendu des spectateurs se plaindre, en particulier pour Lost, qui est peut-être pas le meilleur exemple de ce phénomène, mais quoi, qui en tout cas a produit ce type de sentiment, qui est, ils savaient pas où ils allaient, ils ont écrit au fur et à mesure, et à la fin, ils sont arrivés avec une fin comme ça, mais qui n'était pas prévue au départ. Et donc, en fait, c'est l'idée de s'attacher à un récit dont on sait pas, d'élaborer si les scénaristes qui sont là au début savent où ils vont, ou même si ce sera encore les mêmes scénaristes à la fin. Donc, c'est de rentrer dans un récit, sans qu'il y ait une sorte de petit dieu en dessus qui contrôle l'univers. L'idée du showrunner est arrivée, alors peut-être qu'il y en avait avant, mais moi j'ai entendu parler des showrunners très tardivement dans l'histoire des séries télévisées, très très tardivement, qu'on ait quasiment créé du néant une notion pour rassurer le spectateur en disant qu'il y a quand même quelqu'un au poste, et en gros c'est surtout si jamais vous vous plaignez, vous avez une personne que vous pouvez désigner comme étant le responsable de toute la merde que vous êtes en train d'avaler, et donc il y a quand même quelqu'un à blâmer. Il n'y a pas juste vous et votre choix d'avoir regardé ça. Donc j'imagine que c'est ça la première question qui se pose par rapport à un objet fictionnel comme une série télévisée, c'est qui pilote le navire, qui pilote l'avion. Et en fait, j'ai un point de vue un peu qui peut être contesté là-dessus. Je pense que ça a aucun sens de considérer que c'est le scénariste qui décide de ce qui se passe dans une série. Si quelqu'un décide de ce qui se passe dans une série, c'est déjà moins le scénariste que l'ensemble des facteurs qui rendent la série possible et d'abord les spectateurs. C'est-à-dire que grosso modo, si un spectateur déteste un personnage, il y a de fortes chances qu'il meure assez rapidement. Ou alors, on va jouer avec le fait que le spectateur le déteste. Et il y a eu plein d'exemples où les spectateurs se sont attachés à un personnage, on ne sait pas trop pourquoi, mais il leur a plu tout de suite. Alors ça peut être lié à l'acteur, ça peut être lié à l'écriture curieuse que ce personnage générait, ou les nouvelles interactions qu'il proposait avec les autres personnages. Mais du coup, il devient indispensable, et donc non seulement il reste dans le récit, mais il va infléchir très nettement la trame narrative. Des exemples super connus de ça, c'est Krychek dans X-Files. Normalement, un personnage pareil n'est pas supposé tenir très longtemps, quoi. Mais un charme extraordinaire se dégageait de lui, une ambiguïté, une ambivalence. Et ça, c'est poussé encore plus loin dans le personnage de Spike dans Buffy, pour ceux qui ont vu Buffy. Spike, les spectateurs ont adoré Spike. Il devait disparaître à la fin de la saison où il arrivait. Et il était tellement, tellement aimé Et donc, non seulement sur les spectateurs, mais du coup aussi, je pense, pour les scénaristes et pour tout ça, qu'il a fallu trouver non seulement des raisons de le faire revenir, de le faire rester, de lui donner une importance, etc. Il a infléchi le récit. Il y a un exemple comme ça dans Lost, qui est celui de Ben. Ben, bon, si vous êtes venu ici avec Twin Peaks, Lost in Twin Peaks, vous connaissez Lost, donc je peux rentrer dans des détails. Au début, c'est un personnage, c'est un des autres qui est attrapé par les survivants, les naufragés, les rescapés, et qui se présente comme un Henry Gale, qui est supposé être venu sur l'île, sur une montgolfière, etc., en faisant un voyage autour du monde, il a perdu sa femme, blablabla. Et eux, enfin, surtout Saïd refuse de le croire, dit qu'il ment, et il reste enfermé. Et en effet, c'était un des types du groupe qu'on appelle The Others, que les rescapés appellent The Others. Mais ça devait s'arrêter là. Et l'acteur était fabuleux. Les fonctionnements entre lui et le personnage de John Locke étaient savoureux. Il se passait quelque chose de très fort. Et donc, du coup, il a été immédiatement monté en grade. Il est devenu le chef de ce groupe. Donc, vous imaginez toutes les transformations dans un scénario que ça peut engendrer. Pareil, des transformations ont lieu quand un acteur laisse tomber et qu'on décide de pas le remplacer, comme dans Lost, Mr. Echo. Le fait que l'acteur supportait pas le climat et avait envie de rentrer en Angleterre, et ça suffisait comme ça, fait que un personnage qui était prévu de tenir jusqu'à au moins la fin de la cinquième saison, c'est ce qu'ils avaient dit, hein, et qui avait un des rôles principaux avec Locke, a dû disparaître. Alors, du coup, on imagine que les éléments qui lui sont associés se transfèrent dans d'autres personnages, etc. Mais ça change tout, et c'est pas le même récit qu'on voit. Donc, il y a plein d'éléments qui sont des éléments complètement éparses, épisodiques, qui modifient le trame du récit, mais qui le modifient consensuellement. Donc, regarder une série, c'est ça où c'est très différent que de regarder un film. C'est que, quand on commence, non seulement on ne sait pas comment ça va finir, mais on n'est même pas sûr que ça finisse. Il y a plein de séries qui sont arrêtées avant d'avoir achevé leur récit, quoi. Et des séries extraordinaires comme Carnival ou Deadwood, bon, c'est des séries inachevées, quoi. John from Cincinnati. Et il y a fort peu de chances qu'on rencontre jamais la suite de ces séries. Donc, qu'on découvre jamais la suite de ces séries ou la fin de ces séries. Donc, même si des fois ça a lieu, et pour Twin Peaks ça a eu lieu, contre toute attente, 25 ans plus tard. Le deal quand on commence un récit de série et quand on s'implique dedans, c'est qu'on accepte l'idée qu'il peut s'arrêter du jour au lendemain, il est inachevé. Et il n'y a pas quelqu'un qui contrôle derrière. En fait, on est tous une sorte de petits éléments essentiels qui font que la série existe. C'est ça qui fait que cette idée, elle se reflète vachement dans Lost, en particulier dans l'ordinateur de la Dharma, dans la station The Swan, et le fait qu'il y a besoin de quelqu'un qui soit là et qui tape une suite de chiffres tous les 108 minutes. Pour moi, c'était une image du spectateur. Chaque spectateur, en fait, détient, à un niveau micro, hein, quasiment une sorte d'image de la démocratie, mais le pouvoir d'arrêter la série, quoi, donc de détruire un monde. S'il reload pas, s'il rappuie pas sur play, et s'ils sont nombreux à pas rappuyer sur play, pas, tout ce monde-là disparaît. Donc, Ça change énormément le statut du spectateur. Et ça implique probablement, d'ailleurs, son changement de regard. Le fait que le regard d'un spectateur de série télévisée est vraiment modifié par rapport à un spectateur de film. Très souvent, les débats les plus durs que j'ai eus ont été avec des cinéphiles. Il y a beaucoup de cinéphiles qui sont complètement, je veux dire, c'est pas qu'ils détestent le principe de la série, mais je pense qu'ils sont relativement étrangers à son processus de création, suffisamment étrangers. Je veux pas généraliser, il y a des contre-exemple, il y en a des paquets. Bon, c'est le jeu, on généralise un petit peu. Disons qu'à un niveau de nombre, j'en ai vu plus comme ça que des qui aiment bien vraiment les séries. Et un truc, c'est que je pense qu'ils arrivent à vraiment aimer des séries quand ils savent qui est le chef. Des fois, jusqu'à délirer la place du chef, quoi, du genre la série de Scorsese ou la série de machin. Donc, il l'analyse vraiment comme avec un point de vue auteuristique. C'est parce que c'est quasiment une méthode de regard ou un type de regard qui a été porté sur le cinéma, type de regard où on considère que les choses qui apparaissent dans l'écran et la grammaire qui est envisagée, la façon dont non seulement le récit, mais les choses sont montrées, etc., correspond à un regard spécifique qu'on va pouvoir déduire et à partir duquel on va pouvoir se situer. Sur une série, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de dire ça. Beaucoup plus difficile de dire, bon, on le fait, hein, on le fait avec les showrunners. Je fais ça très souvent quand je regarde Leftovers et je dis ok, ça c'est l'écriture de Lindelof ou machin, mais c'est pas complètement légitime. C'est pas un acte totalement légitime. Ce qui se passe de mieux dans une série se joue pas là, en gros. Et on voit en fait un truc. Je vais pas monopoliser la parole. Normalement, c'est une interro surprise. Et là, c'est genre le mec qui est en interro. il veut pas lâcher le micro pour qu'on lui pose pas de questions. Donc, je vais essayer d'aller vite à la fin de ce truc-là. Et comme ça, on peut réenchaîner avec des questions. Mais, c'est intéressant de voir ce qui se joue aujourd'hui avec la réception de Twin Peaks saison 3. Parce que on a vraiment là deux showrunners. On peut leur donner le nom qu'on veut, mais quoi, c'est deux showrunners à leur manière, deux showrunners atypiques, David Lynch et Mark Frost, et eux, ils emploient vraiment des méthodes très très différentes de communication qui impliquent un spectateur complètement différent. Parce que là, il y a The Final Dossier qui va sortir bientôt. Si vous êtes tous au jus sur Twin Peaks, vous voyez de quoi je veux parler. C'est-à-dire, c'est le livre de Frost Frost a fait donc Twin Peaks, Mark Frost et David Lynch. Frost a sorti un livre juste avant que la série sorte, que la saison 3 sorte. Enfin, juste avant, 6 mois, 1 an. Hein, mais bon, enfin. Avant, c'est peu par rapport aux 25 ans qui séparent. Hein. Donc, ça, en prévision de cette saison 3, il est sorti The Secret History of Twin Peaks. Et là, très peu de temps après la fin de la série, il sort The Final Dossier. Et dans The Final Dossier, bon, j'ai pas encore lu parce que ça vient des States et c'est long à arriver. Mais il y a déjà des gens aux États-Unis qui l'ont lu, qui ont fait des summaries, qui ont commencé à en parler, qui ont dit attention spoilers. Si on peut encore vraiment parler de spoilers pour un livre comme celui-là, mais pourquoi pas. Mais enfin, ce qu'on comprend, sans vous spoiler le livre, c'est que Frost essaye de donner des réponses qui sont des réponses, quoi. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'il y a d'ambigu dans la saison 3, le livre se donne comme beaucoup moins ambigu, mais incroyablement moins ambigu, anormalement moins ambigu. Donc du coup, on est vraiment, c'est un acte, je veux dire, c'est des actes de décision forte de la part de deux showrunners, l'un qui a à partir de la même histoire, l'a rendu le plus ambigu possible. Ambigu, des fois à des points où on se dit, et pourquoi là c'est ambigu? Est-ce qu'on doit aussi être ambigu sur ça? Et l'autre qui essaye d'être le moins ambigu possible. Et c'est clair qu'ils s'adressent pas aux mêmes personnes. Alors on les reçoit de chacun d'eux, mais on a l'impression avec Frost et Lynch d'être comme ces enfants dans une famille où les parents se disputent sans arrêt et où ils sont comme dans une espèce de double bind. Ah, mais je dois croire qui, maman Lynch ou papa Frost, parce que un qui dit t'es libre et puis la vie est mystérieuse et les choses que tu vois sont des signes, mais c'est toi qui crée le puzzle. Et c'est toi qui vois la signification, et l'autre qui lui dit oh non non pas du tout, là il y a danger, 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 voilà. Et on est dans un truc vraiment comme ça, vraiment vraiment bizarre. Donc hey, j'arrête, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la première question, mais qu'est-ce que c'est, quoi, une série sans fin, réponse sans fin. Mais je vous propose quoi, de lancer des questions, c'est le jeu. Ok, c'est fini.
Il n'y a pas très longtemps, Lindelof, qui a assez taquin, à mon avis, au Forum des Images, disait qu'en fait, non, ils étaient partis de rien du tout pour Lost, qu'on lui avait dit, ah, il y a ce scénario débile d'un crash d'avion sur une île, mais on ne sait pas quoi en foutre. Crée-nous quelque chose en un week-end. Et il dit, voilà, c'est parti de ça. Bon, en même temps, c'est Lindelof qui dit ça.
Oui c'est vrai que c'est... Alors, Lindelof est un showrunner non seulement très taquin, mais qui a une espèce de relation de plus en plus forte, d'ailleurs, avec le temps, avec Lynch comme modèle. Parce que pendant saison 3 de Twin Peaks, il a fait plusieurs podcasts avec un groupe de fans. Il en a fait 3 où ils commandent des épisodes ensemble et où ils spéculent ensemble sur ce qui se passe, etc. Et il le dit d'ailleurs, il parle de sa relation à l'univers de Lynch et à la personnalité de Lynch. On voit qu'il est complètement subjugué et tout. Donc il doit jouer aussi le jeu de alors qu'il est très bavard et qu'il a envie de développer, de se restreindre pour pas non plus écraser le spectateur. Le truc intéressant de Lynch avec le fait de lui pas vouloir interpréter, c'est pas pour interdire l'interprétation. Il y a plein de moments, il y a des interviews où on a demandé à Lynch ce qu'il pensait des interprétations de Twin Peaks sur le net, et il adore au contraire. C'est pour que l'auteur ne se substitue pas au spectateur. C'est-à-dire, si c'est genre moi ou vous qui dites Twin Peaks, ça veut dire ça. Ça n'a une valeur qui est une valeur uniquement individuelle. C'est-à-dire, tout le monde sait que ça veut dire, c'est quelqu'un qui pense que Twin Peaks veut dire ça. Et tout va bien. Tandis que si c'est l'auteur qui le dit, ça casse complètement la possibilité au spectateur de projeter ses propres interprétations. Autant des interprétations individuelles venant de X, Y nourrissent la discussion, et il n'y a pas à être, on n'est pas gêné pour dire oui, enfin ça c'est ton avis, et puis voilà, c'est normal, on est tous au même niveau. Tandis que l'auteur a souvent cette espèce de rôle un peu autoritaire de venir et de corriger. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que ça, en tout cas, c'est une opération qui est une opération hyper délicate. Pour Lindelof, comme il a une nature hyper spéculante, quoi. C'est quelqu'un qui est voué quasiment par trait d'esprit à ne pas cesser de proposer. C'est beaucoup plus difficile. Donc, du coup. Il était un peu retenu par Carlton Cuse sur Twin Peaks, sur Lost, mais quand il est arrivé sur Leftovers, on voit quasiment toute la saison 3, même déjà la saison 2, était accompagnée de longues descriptives de qu'est-ce qui se passait dans le writers room, est-ce que on est plutôt allé sur ça, et donc c'est des stratégies très complexes pour pas fixer le sens et figer le sens. Pour ce qui est de l'origine de Lost, c'est pas faux ce qu'il raconte. J'ai lu un texte venant d'un autre membre de la première équipe de scénaristes, Javier Grier Maxo, enfin je sais plus exactement comment il s'appelle. Il était scénariste sur la première saison de Lost. Et il a écrit, il y a un espèce de texte assez long, qu'on trouve sur le net, souvent, sur comment s'est passée l'écriture de la première saison de Lost. Et si on confronte ça, les déclarations de Lindelof et des trucs qui viennent de la prod, on est à peu près là-dessus. C'est-à-dire que la chaîne avait comme enjeu une série de crash d'avions sur une île mystérieuse. Abrams avait 2-3 envies. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour faire le job. Et Lindelof a postulé pour le job, a fait la rencontre avec Abrams, et lui il a amené 2-3 idées, mais qui étaient très intéressantes, vraiment très intéressantes, parce que en fait d'un côté on voit très bien la différence de personnalité de showrunner ou de personnalité de producteur ou de scénariste entre Abrams et Lindelof. Abrams, il disait, je veux qu'il y ait une trappe dans l'île, c'est le côté magic box. Je veux qu'il y ait une trappe dans l'île, je veux qu'il y ait un monstre, et je veux qu'il y ait déjà des gens sur l'île. Lindelof, il est arrivé avec des idées qui sont incroyables. Il est arrivé avec, enfin, incroyable quand on voit sa manière de penser. Il dit, le problème d'une série sur une île déserte, c'est que le nombre d'espaces dans lequel on visite est restreint. Donc il faudrait qu'on ait des flashbacks des personnages, comme ça on pourrait tourner des choses ailleurs. Première idée. Et en plus, ça nous permettrait d'orienter les épisodes sur des personnages. Et ça serait à la fois une série feuilletonnante et une série épisodique. Deuxième super bonne idée. Et l'autre idée, vraiment l'idée clé qui va tout renverser, c'est il faut qu'à un moment, il quitte l'île et qu'il décide d'y retourner, parce que non seulement le spectateur à ce moment-là aura envie de revoir l'île, ou aura envie de retourner sur l'île, ou se sentira appelé par l'île, mais ça mettra l'île au centre de la série, ça la rendra nécessaire, et non pas simplement un endroit qu'on doit quitter à un moment ou un autre. Genre, c'est plus une prison, c'est un destin. Et enfin, ça, c'est ce que j'ai lu des trucs sur les points de départ. Et en effet, il n'y avait pas beaucoup de choses de plus. On sait que, et ça, c'est un truc qui traîne dans Leftovers aussi, et tous ces trucs-là. Lindelof est arrivé sur la série avec le deuil de son père. Bon, ça, c'est... hein, je crois que... donc, on comprend que c'est un truc qui a été très... grosse source d'influence. Et il a appelé à la rescousse Carlton Cuse, qui était un scénariste plus aguerri, pour que... Puisqu'il avait la trouille sur cette première saison de ce qui allait se passer, etc., avec ces éléments-là, pour qu'ils commencent ensemble à créer le grand arc narratif. Mais l'arc narratif principal est arrivé entre la première et la seconde saison. Là, ils ont eu une idée globale de vers où ils allaient. Et évidemment, ils ont posé des jalons, mais personne ne pouvait être certain qu'aucun d'entre eux n'irait au bout. Le moment clé, le moment où le récit se noue, pour le meilleur ou pour le pire, en tout cas pour le meilleur pour ceux qui aiment, pour le pire pour ceux qui n'aiment pas, en fait, c'est le moment où il y a le bras de fer avec la chaîne. Quelle, justement, que Lost soit une série sans fin, pour le coup. Parce que quand ils arrivent sur la troisième saison, la chaîne, elle fait un truc très bizarre. C'est qu'elle engage deux acteurs brésiliens. C'est une espèce d'accord entre les chaînes. D'accord, entre ABC et puis une chaîne au Brésil, etc., qui vont faire les personnages de Nicky et Paolo. Et en fait, c'est deux acteurs qui sont téléportés d'une espèce d'accord entre chaînes dans le récit. Et en même temps qu'ils se découvrent qu'ils ont deux nouveaux personnages à gérer, un peu, ils n'ont pas décidé, quoi, ils ne les ont pas voulu, ils apprennent que ces acteurs-là, ils ont un contrat pour 7 ans. Et eux, ils ont jamais dit qu'ils feraient 8, 9, 10 saisons. Ils leur disaient, on voyait ça autour de 5 saisons. Donc à partir de ce moment-là, il y a cette espèce de grand bras de fer fameux qui va tenir pendant la saison 3, dont on a des échos dans la saison 3. On voit des échos de ce truc-là, de ce bras de fer, qui se joue entre la chaîne et les scénaristes, sur est-ce qu'on peut avoir le contrôle de ce récit ? Qui est le boss ? Et ils vont avoir un allié de poids au niveau symbolique. Je pense que dans l'édition de la chaîne, il vaut Peanuts, qui est Stephen King, qui écrit même un article là-dessus dans un magazine, dans un hebdo ou un mensuel. Enfin, il a une chronique, enfin, un article en disant pourquoi est-ce qu'il faut que les scénaristes aient le final cut, etc. Enfin, la décision de quand est-ce qu'ils arrêtent leur série, tout ça. Ça va complètement contrairement à l'idée du scénariste pas démiurge, hein, évidemment. Ça veut dire quand même qu'il y a un moment où, en tout cas, si ça se joue pas uniquement sur le scénariste, faut pas que ça se joue uniquement sur la chaîne. Non. C'est vraiment pas les mêmes enjeux. Et le point de fort de ce bras de fer, c'est le moment où il tue Nicky et Paolo. C'est-à-dire qu'il tue des personnages qui ont ce contrat de 7 ans. Je sais pas ce que ça représente après en termes de fric à dépenser pour la chaîne pour rien. Enfin, voilà. Oui. Ouais. Complètement. Dans une série un peu nulle, ouais. Une espèce de Baywatch à la ramasse. Ouais.
Oui, mais je ne voulais pas interrompre, hein, faut continuer. Une question qui va revenir sur le sans fin et plutôt Twin Peaks.
Oui.
Donc sans fin, certes, mais néanmoins Twin Peaks, c'est 25 ans après, avec des acteurs qu'on retrouve, pas tous malheureusement, mais on en retrouve beaucoup, et on les retrouve, ils ont vieilli, donc ils sont vraiment dans le temps. Enfin, il y a une temporalité.
Oui.
Donc voilà, enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est en entendant donc ce thème sans fin, je me disais ben néanmoins c'est pas tout à fait sans fin pour moi, c'est sans fin quand on voit la saison 3 et la fin de la saison 3 sans fin, mais c'est bien ancré dans le temps. Donc je sais pas si enfin voilà les suggestions.
Ah non, oui, c'est juste. Je sais pas très bien. Ça ouvre plein de perspectives. Les possibilités sont nombreuses pour développer sur ces questions-là. Oui, c'est en dehors du fait que c'est un acte poétique hyper rare, hein, ce qui s'est joué avec la saison 3. Je crois que le plus énorme a été la façon dont vis-à-vis de ce que c'est que revenir la violence avec laquelle ils ont refusé de jouer le jeu, ou Twin Peaks n'a pas joué le jeu et des reboots et des séries qui reviennent, c'est-à-dire je crois en anglais on appelle ça le fan service, le truc pour fans quoi. Ça a été très brutal sur cette question-là, très très brutal et très violent, pas aussi violent visiblement que ça aurait pu l'être. Parce que il y a une interview de la productrice exécutive Sabrina Sutherland qui explique que dans le premier scénario qui a été rejeté par la chaîne quand même, mais ça genre ils le savaient, on n'était pas dans Twin Peaks avant 3 ou 4 épisodes. Tout se passait en New York et tout ça. Ce qui était très intéressant, et ils voulaient faire revenir les personnages clés de Twin Peaks le plus tard possible. Bon, ils ont un peu joué ça. Disons qu'ils l'ont joué de façon homéopathique, c'est-à-dire qu'ils ont fait revenir les personnages lentement. Vous voyez, quand on regardait la série machin, à quel point ils ont fait retarder. Bon, Audrey arrivant vraiment en bout de course en termes de grandes stars attendues et tout ça, mais même Ed Hurley et tout ça, ils les ont fait venir le plus tard possible, et ce qui faisait que ça créait un premier niveau de légère frustration par rapport à ce type d'attente, et ils les ont fait revenir dans une forme surtout Audrey qui était très brutale et très violente par rapport à des attentes de spectateurs, c'est-à-dire que ça a vraiment contre-effectué tout ce qu'il peut y avoir de pourri dans les reprises de grandes séries ou de grands films parce qu'on manque d'imagination et donc du coup on retourne sur des acquis. Ça a pas joué ce truc là. Ça a même joué l'inverse dans le sens où on pourrait dire, mais on peut interpréter tout le long de la série, il y a un discours de crise. Tout le long de saison 3, il y a des moments où les personnages parlent de la situation politique et de la situation sociale à Twin Peaks comme d'une ville en crise. En particulier, une espèce d'investisseur qui drague Norma, là, ou en tout cas, elle a une espèce de relation avec lui où il est supposé étendre le concept du double R, Norma's double ear, dans plusieurs villes et tout ça. Et où il lui dit, c'est quand même extraordinaire par rapport à cette ville sinistrée qui est Twin Peaks, comment le double R a réussi à tenir. Et quand on voit, le docteur Jacoby qui vit dans une caravane et tout ça, et puis l'importance du parking de caravane, vraiment, le parking de caravane est plus important que l'hôtel, hein. Et donc l'état de crise dans lequel est saisi la ville de Twin Peaks et du reste l'univers, le Twin Peaks universe, on pourrait dire, même que la crise atteint quasiment la Black Lodge, ils sont dans un bizarre état, c'est beaucoup moins glamour, la vision d'ensemble, la vision d'ensemble, même la vision du mal est moins chatoyante, est moins colorée, tout est beaucoup plus dur. Mais ça semble s'opposer à cette espèce de C'est, je dis pas que c'est une action volontaire, encore une fois, là, c'est vraiment, de toute façon, et toutes les interprétations que j'ai, c'est pas du tout des interprétations copyright, les scénaristes l'ont dit, ou la production l'a dit, c'est vraiment juste des interprétations. Mais par rapport à tout ce qui s'est joué en termes de falsification du bilan émotionnel américain, les dernières années, avec tous les films de super-héros, et même la façon dont on est revenu sur les grands mythes fondateurs de la pop culture ou de la culture de la jeunesse du temps passé, comment on essaye de faire revivre ces trucs-là en les boostant artificiellement, en leur donnant vitamine sur vitamine. Twin Peaks a joué un jeu qui est complètement différent et qui quasiment, je veux dire, c'est une rupture totale par rapport à ça. Alors déjà, bon, de toute façon, Twin Peaks était différent, mais la façon dont c'était appelé, c'est très intéressant de voir un truc. Au début, quand on a appris que Twin Peaks allait revenir, quand il y a eu ce fameux double tweet de Frost et Lynch avec This game you like is going to come back in style, qui était probablement déjà la résultante de longues discussions et de longues négociations. Un des premiers trucs qui faisait que la joie n'était pas totale, c'était j'espère qu'ils vont pas tout nous gâcher uniquement pour nous faire plaisir. J'ai entendu ça plein de fois. Et plein de gens qui disaient j'ai un peu peur de ce retour de Twin Peaks parce que ça peut peut-être être un peu lourd de les revoir tous faire leur petite routine et tout ça. Et la magie est peut-être disparue. Et ensuite, il y a eu le moment où Lynch a fait son bras de fer. Et où il a dit qu'il se retirait du projet et où ça a été une espèce de truc où les acteurs et compagnie ont commencé à militer. Et à ce moment-là, le nain n'avait pas encore lâché le navire. Michael Anderson, le nom du personnage est le bras, donc le bras n'avait pas encore connu son évolution. Et il avait écrit sur Facebook, c'était avant qu'il écrive sur Facebook que Lynch avait essayé de le tuer, et qu'il avait fait assassiner Jack Nance, et qu'il entretenait une relation incestueuse avec sa fille, etc., etc., avant qu'il pète les plombs. Il avait dit un truc qui était super juste, qui était que le problème par rapport à faire revenir Twin Peaks, et c'est pour ça qu'il était plutôt, en fait, grosso modo, ça le rassurait presque que Lynch ne le fasse pas, c'était l'idée que Twin Peaks avait opéré comme un véritable choc sur le spectateur de son temps. C'était un choc parce que ce qu'il voyait était anormal. C'était anormal de voir ça à la télévision. On avait un récit, mais vers où le récit nous emmenait et les libertés qu'il prenait par rapport à une psyché classique étaient hallucinantes. Et c'était vraiment... la scène archétype, c'était à la fin du deuxième épisode, troisième si on compte le pilote, première séquence de la Black Lodge, la séquence dans la pièce rouge avec le nain, Laura Palmer, Cooper, le rythme, le fait qu'elle soit à l'envers, l'absence de relation directe avec le récit à ce moment-là, tout, c'était bizarre, pour dire le moins. Et que vouloir revoir ça aller atténuer l'effet. C'est-à-dire dire, je veux revoir la Black Lodge, je veux revoir le nain, je veux revoir Bob. Ça allait donner un aspect nostalgique à ça. Et c'était judicieux de dire ça. C'est-à-dire que ça allait tout casser si jamais on reprenait Twin Peaks avec, même en le développant, l'allure et la forme et les repères du Twin Peaks originel. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que même des gens qui n'ont pas aimé cette saison de Twin Peaks admettent que c'est vraiment différent de ce que c'était avant. C'est même la raison pour laquelle, en général, ils n'ont pas aimé. J'ai vu les remarques des gens qui n'ont pas aimé Twin Peaks. C'était genre, moi, j'aimais bien l'intrigue policière, j'aimais bien voir l'agent Cooper normal, je préférais ça à voir Dougie Jones, et j'aimais bien, ils aimaient bien Twin Peaks, qui était fait, et qui, si jamais il revenait, machin... serait fait, ça aurait ressemblé à une kitscherie infâme. Même la musique de Badalamenti, ça aurait été choquant de la voir en continu comme elle était avant, parce qu'elle représente presque un paradis perdu pour le spectateur d'aujourd'hui. C'est déjà nostalgique. Donc entendre la musique de Badalamenti en continu, les claquements de doigts, le décrescendo de basse, les petits coups de vibraphone, même les trucs de sax liés à Cooper, qui sont super forts dans la série. Et quand dans le film on revoit l'agent Cooper, le fait d'entendre juste son petit thème au saxophone, ça fait un effet extraordinaire. Mais là, vous imaginez, première scène avec Cooper, on a le petit thème au saxophone, ça fait kitsch. Donc, le moment où la musique arrive dans la saison 3, c'est brutal, ça crée un plus du malaise qu'autre chose. C'est-à-dire, c'est le moment où Bobby voit la photo de Laura Palmer et se met à exploser en larmes. Et là, on a la musique de Laura Palmer qui explose en même temps que lui. Et donc, là, c'est associé à des courts moments brutaux et nets de restitution du passé. C'est-à-dire que le passé n'est pas donné comme quelque chose d'acquis, le retour au passé n'est pas donné comme quelque chose d'acquis, bien au contraire. Et donc, le spectateur est au même niveau que Dougie, enfin que Cooper dans le corps de Dougie, qui capte des morceaux de choses qui font sens ou qui est à l'affût de choses qui pourraient faire sens pour lui, mais qui sont très loin ou qui n'arrivent pas à s'accrocher. Tout ça, c'est très, comment dire, il y a un truc génial dans la façon dont la saison 3 est envisagée pour ça. Parce que elle ressemble aussi à l'état dans lequel on est quand on connaît quelqu'un qui est malade, qui a Alzheimer ou qui est très très diminué, et on essaye de capter son attention, on essaye de retrouver son âme. On est comme ça avec Cooper, c'est-à-dire qu'on est vraiment mis le spectateur, et c'est pour ça que les scènes sont très lentes, parce que si on avait juste des petits morceaux comme ça, ce serait comique. Ce serait vraiment juste comique, c'est comique, hein. Et puis il y a une beauté qui se dégage de ça. Mais il y a beaucoup de scènes où on est là et on attend et on se dit putain, là il y a une tarte aux cerises, donc Cooper, tu te réveilles. Et non. Et on voit l'œil qui se lève quand on a des petites notes au piano, parce que la série est hyper méta pour ça, tout le temps. Enfin, méta dans le sens où la mémoire de Cooper est la mémoire du spectateur, en fait. C'est pour ça, même quand il est au courant de trucs... Enfin, comment dire, il est sensible à des signes qui sont des signes, les signes de Twin Peaks en tant que série. Pareil, quand on a Audrey's Dance. Audrey's Dance, c'est pas le nom du morceau, c'est le nom du morceau sur le disque. Donc, c'est des éléments de méta qui rentrent dans le récit. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, est plus ou moins dans cette, enfin, comment, c'est quelque chose où le spectateur est impliqué et investi directement. Quand Cooper est avec son nouveau groupe d'amis à Las Vegas, les Mitchum et les trois jeunes filles, et qui mangent du gâteau, on a le piano, et d'un coup le piano commence un thème qui pourrait vaguement faire penser au thème de Laura, mais juste, c'est simplement le son du piano de Badalamenti avec énormément de réverb. Et là on voit qu'il lève la tête, et on a cette espèce d'impression que ah, il se rebranche sur l'état, on va retrouver la série et le thème bifurque et l'attention de Cooper. De nouveau bifurque aussi, et toujours pas. Et donc c'est le truc de ce truc de retour, et ce truc du la mise en scène du spectateur dans Twin Peaks saison 3 est hallucinante pour ça. Que ce soit du côté Dougie, enfin du côté Las Vegas, que ce soit du côté de Twin Peaks lui-même, et de la façon dont des éléments qui font signe ou qui font sens pour le spectateur, qui rappellent les plaisirs qu'il avait dans la série arrivent et redisparaissent. Tout ça est incroyablement comment dire juste. On est honnête et juste. Mais ça parle d'autre chose en même temps. C'est-à-dire que c'est comme une première un premier rideau. C'est-à-dire que quand on a saison 3, on a un premier truc qui est on veut retourner à Twin Peaks. Est-ce qu'on peut retourner à Twin Peaks? Et ça, c'est un premier niveau de lecture de l'expérience du spectateur. Après, il en a d'autres encore, parce que c'est saison 3 est monstrueux pour ça. Désolé pour ce que j'ai spoilé. Bon. Oui. Ah, est-ce qu'on pourrait parler un peu de l'épisode 8? Est-ce qu'on peut en parler? C'est dur, hein, non? Vous voyez tous, évidemment, de quoi il veut parler quand il dit épisode 8? Non, pas tous. Vous avez pas vu Twin Peaks? Ah, oh, putain, désolé, hein. On est juste en train de vous le foutre en l'air. Oui, on va rien révéler du récit. On va rester vraiment dans l'interprétation sans le récit. Après, quand vous verrez le récit, peut-être que c'était ça dont il parlait. Mais ça vous le spoile pas. Pas trop. Ouais. Non, mais ce qui se passe avec épisode 8, c'est vraiment super troublant. Hein. Alors, c'est très, 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 très bizarre. C'est-à-dire que on était déjà habitué à... Enfin, comment... Là, il faut voir l'état du... Enfin, moi, je parle qu'en tant que spectateur qui a chopé les épisodes, épisode après épisode pendant l'été, et donc qui... Déjà, épisode 3, c'était bizarre. Alors, épisode 3, le fait d'avoir... comment dire... De commencer à expérimenter des mondes qui soient plus du tout, qui soient plus cartographiables par rapport à ce qu'on connaissait de Twin Peaks. Et dans des temporalités aussi qui sont extrêmement bizarres. Et donc l'idée que, si Twin Peaks était un univers, un imaginaire qu'on avait fini par au moins structurer, ou qu'on pouvait articuler, là, on nous amenait dans des zones qui étaient des zones nouvelles. Et on commence avec épisode 3 pour ça, et puis quand on arrive à épisode 8, alors là, ça ouvre tout autre chose. Mais surtout, ce qui est curieux, c'est à épisode 8 que je m'en suis rendu compte, mais je me demande s'il y en a avant, mais c'est pas sûr. Mais épisode 8, c'est très net, et après, il y en a beaucoup, c'est qu'il y a des hommages directs. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout classique dans le style de Lynch. Lynch, qui est notoirement réservé en ce terme de balancer des références, et surtout des références cinéphiles, je crois que ça doit être la chose qu'il a détesté le plus au monde, faire, balancer des références cinéphiles ou dire je me suis inspiré de ça, etc. etc. Ce qu'il joue quand il fait cette scène liée à la fois à un événement historique existant, donc les tests atomiques au Nouveau-Mexique, et à une grammaire cinématographique identifiable, qui est celle de 2001 de Stanley Kubrick, très identifiable. Puis tout le monde y pense, donc c'est pas c'est que c'est voulu. c'est étonnant parce qu'en fait à ce moment-là, ce qui apparaît aussi, c'est que et ça là on quitte le domaine de l'expérience pure du spectateur et là on va vraiment vers un artiste Lynch qui essaye aussi de profiter de cette saison 3 pour raconter l'histoire de sa vie psychique ou l'histoire de la construction de sa la construction de son imaginaire. Parce que si vous avez vu The Art Life, si vous l'avez pas vu, c'est le documentaire de John Guyenne sur Lynch, je vous le recommande vachement. Bon, tout le monde n'aime pas ce film, mais tout le monde n'aime pas tout de toute façon. Moi, j'ai vachement aimé. On sait, par exemple, que Lynch, un homme qui a eu beaucoup d'importance pour qu'il devienne un artiste, c'est un homme qui s'appelle Bushnell. Et dans la saison 3 de Twin Peaks, le patron de Dougie, il s'appelle Bushnell. C'est pas un prénom super courant, c'est pas comme il s'appelait John Bushnell. Et vu qu'on a cette scène où désolé, ça je spoil un bout du récit, mais c'est pas un énorme truc dans la trame. En fait, Cooper à ce moment-là fonctionne un peu comme un autiste, en tout cas un type avec une grande bizarrerie d'expression, et il essaye d'expliquer un truc par rapport à une arnaque à l'assurance. Et pour ça, il fait des petits dessins sur la feuille. Il gribouille des dessins. Et c'est quand on voit ça, c'est genre ok. Et il les file à son patron, et son patron, contre toute attente, comprend. Il comprend complètement. Il dit merci, tu m'as éclairé. Et à ce moment-là, moi, j'interprète ça, c'est personnel, hein, mais je pense que c'est lié à j'ai eu besoin de quelqu'un qui prenne ce que je fais pas pour des trucs d'un fou, mais pour quelque chose qui ait du sens. Et donc, dans l'histoire de Las Vegas, Lynch en profite pour raconter la genèse de sa geste artistique. À ce niveau-là, le Cooper Dougie, c'est une sorte d'image, c'est un reflet. C'est souvent question de reflet chez Lynch. Il y a une introduction de La femme à la bûche qui parle de ça, qui parle des reflets et tout ça. On voit des reflets. On voit que des reflets. Et puis bon, Twin Peaks, c'est les miroirs, les reflets. Les doubles, les reflets. Mais ça, c'est un reflet de sa genèse à lui. Et je dirais que dans cette saison, il y a plusieurs moments visuels qui renvoient à des reflets de sa genèse en tant que cinéaste. C'est une possibilité d'interprétation. C'est pour ça qu'il y a cette grosse citation de Kubrick, cette énorme citation de Kubrick. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un morceau de Sunset Boulevard. Et c'est pour ça qu'il y a, comme ça, égrené dans la saison des choses qui sont des mêmes... Ah, micro-spoiler. Le corps retrouvé de Ruth Davenport à Buckhorn. Je ne parle pas de sa tête coupée, je parle du reste du corps. La position du bras, et la forme du corps et la position du bras rappellent l'installation de Marcel Duchamp étant donné. Et ça, c'est super bizarre. Bon, Lynch, gros fan de Duchamp, hein, gros fan de Duchamp et de Man Ray, il l'a dit 1500 fois, donc ça, c'est pas non plus, c'est pas juste nous qui spéculons. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y avait eu beaucoup d'interprétations, qu'il a été capillotracté de Laura Palmer, de la découverte du corps de Laura Palmer par rapport à étant donné. J'en ai lu. Il y avait des articles de petits malins, un peu critique d'art, érudits, américains, ou c'est pas parce qu'ils sont américains, mais quoi. J'ai lu des textes comme ça sur le net où ils disaient il y a un lien entre étant donné avec ce corps de jeune femme nue à côté d'une rivière, etc., et la découverte du corps de Laura Palmer. Étant donné, on ne sait pas ce que fout la fille, si elle est morte ou si elle est juste étendue. Il n'y a pas d'indication que c'est un cadavre non plus, le truc du champ. Mais il peut être interprété comme ça. Enfin, disons que c'est. Et elle tient elle a la main levée parce qu'elle tient un bec d'éclairage, ce que fait pas Ruth Davenport qui a juste un bras tordu. Mais autant c'était tordu de voir ça par rapport à Laura Palmer, autant dans la saison 3, le corps de Ruth Davenport, lui, fait vraiment écho à cette œuvre, directement. Donc il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de... là, on n'est pas dans un schéma narratif, on est plus dans une espèce de... Là, c'est très méta, hein, mais on est, malgré tout, on circonscrit une espèce de champ, qui est une sorte de champ d'interprétation, parce que le truc bizarre aussi, c'est qu'avec l'œuvre de Duchamp, elle a aussi souvent été associée au Dahlia Noir. Et on a souvent associé le meurtre du Dahlia Noir à Lynch, et Lynch était lui-même obsédé par le meurtre du Dahlia Noir. Alors, bon, il faut, c'est très long si on retrace tout ça, mais vous connaissez l'affaire du Dahlia Noir? Ouais, ok. Et donc, en fait, il y a une interprétation de l'affaire du Dahlia Noir. C'est celle qui est donnée par un flic du LAPD qui s'appelle Stephen O'Dell, qui attribue le meurtre du Dahlia Noir à son père, le docteur George O'Dell, qui était une espèce de médecin chelou de Hollywood, avorteur. C'était très utile quand l'avortement était illégal, mais qui était un type fort peu recommandable, qui était un père incestueux, pas avec Steven, mais avec sa sœur, et qui organisait des sortes de partous assez cradingues dans sa maison, qui était une maison très bizarre de Hollywood qu'on a en photo. Alors, il n'est pas du tout dit que ce soit lui la sainte du Dahlia Noir, mais c'est la certitude de son fils, qui est une espèce de détective, de flic, pas de détective, détective au sens américain, d'inspecteur du LAPD, et qui, d'un coup, s'est dit, mais en fait, tout vient de là et tout est là. Et donc, il a dressé toute une espèce d'enquête autour de son père et avec l'idée que son père était un collectionneur aussi de collages de Man Ray. Que docteur George O'Dell aurait, avec la façon dont il a découpé le corps du Dahlia Noir, etc., aurait essayé de reproduire deux collages de Man Ray ou dessins de Man Ray. L'un qui s'appelle Le Baiser et l'autre Le Minotaure. Et ce qui est très bizarre, c'est que cette interprétation-là vient après Lost Highway. Et sur Lost Highway, Lynch, évidemment, découpe le corps de Patricia Arquette comme le corps du Dahlia Noir. Lynch étant un grand fan de Man Ray aussi. Donc il y a plein de, il y a une espèce d'étrange circulation des sources et qui tourne autour des relations entre la réalité et la fiction, pour le dire vraiment simplement, la réalité imite l'art, l'art imite la réalité, etc. etc. Bref, le crime imite l'art. Bleh. Mais quand on arrive dans saison 3, avec la façon dont, de toute façon, Buckhorn est après Dear Meadows un deuxième reflet de Twin Peaks, c'est des villes reflets aussi. Enfin, il y a un truc qui est, c'est des villes imaginaires. Las Vegas ne l'est pas, mais quoique. Disons que c'est pas un imaginaire propre à Lynch et Frost. Mais Dear Meadows déjà était une ville inventée et qui fonctionnait comme une espèce de double Twin Peaks, puisque c'était là où on retrouvait le corps de Teresa Banks. Et là, quand on joue Buckhorn, on rejoue une espèce de nouvelle scène initiale d'enquête. Donc on crée une nouvelle, on crée une ville, on part de nouveau d'une femme, jeune femme morte, début d'enquête, nouveau policier, bon. Et du reste, leur dépendance à Twin Peaks est marquée par un élément, à mon avis, central, c'est que ils ont des zones, et ces zones-là sont comme des zones secondaires par rapport au cercle principal qui est celui des 12 sycomores, par le fait qu'ils sont nommés sycomores. En fait, pas dans Dear Meadows, mais à Buckhorn et à Las Vegas, les deux lieux qui officient comme des portes avec l'autre monde, je dis zone parce que c'est le terme d'Hastings, hein. Bon, il n'est pas forcément super. Hastings, le personnage d'Hastings là, qui les a repérés avec Ruth Davenport, parle de zone. Mais bon, c'est des portes, quoi. Dans la saison 3, c'est représenté avec cette espèce de le ciel qui se met à tournicoter, un petit peu comme dans True Detective, avec les oiseaux, là. Mais là, c'est carrément une espèce de spirale dans le ciel. Mais bon, ça fonctionne. Même s'il n'y a pas ce traitement-là dans Firewalk With Me, c'est la même idée quand Chet Desmond disparaît, quoi. Il disparaît parce que là, il touche une sorte de zone où il a, à mon avis, hein, il y a un truc comme ça. Et, le parking de caravane de Dear Meadows est disposé aussi comme une zone, comme à Buckhorn. Et à Buckhorn, quand ils appellent, ils disent venez nous rejoindre, on est sur Sycomore. Ça s'appelle l'avenue ou la rue sur laquelle ils sont disposés, c'est Sycomore. Là où Cooper arrive, épisode 3, bah on le voit quand il sort en voiture avec Jade, c'est Sycomore Avenue. Donc il sort dans un lieu aussi qui est sur une Sycomore Avenue. Donc ça associe ces zones qui sont liées à des villes imaginaires, à la ville principale de Twin Peaks et son cercle authentique de 12 Sycomore, qui officie comme une espèce de porte principale pour la Black Lodge, autant que le sycomore unique avec son cercle de liquide doré comme porte pour l'autre lieu. Comme il n'est pas nommé, je ne vais pas m'aventurer à le nommer. On peut y voir la White Lodge, ou peut-être, ou autre chose. Je répondais à qui à ce moment? À vous. Est-ce que j'ai répondu à la question? Pas vraiment? Réponse sans fin? Non, c'était sur l'épisode 8! Ah oui, non, on est sur l'épisode 8. Qu'est-ce que vous vouliez... Ah oui. Oui, parce que l'épisode 8 fonctionne aussi comme... Alors, oui, aussi de l'œuvre de Lynch. Parce que c'est... Alors, c'est très important. Ça, c'est très important. Oui, voilà, merci. Oui, non, oui, et puis surtout, les essais nucléaires... Il y a une photo de ça dans la chambre de Henry Spencer dans Eraserhead. Dans Eraserhead, il y a une photo de ce qui est animé dans l'épisode 8. Donc en fait, l'épisode 8 reprend, bien sûr, les essais nucléaires, l'idée de création de planètes, création de monstres, etc. Enfin, l'idée de recommencer, montrer un commencement du récit. Et la scène suivante, si je dis pas de bêtises, elle se joue l'année de naissance de Lynch. La grande scène avec la jeune fille et le jeune homme. C'est 58 ou un truc comme ça, ou 57. Ah non, 47. Donc c'est, non, c'est le... Oui, il a 10 ans, pardon. C'est les essais nucléaires, au contraire. Tout à fait. Mais, alors, voilà. Non. Mais c'est aussi les naissances du rock'n'roll, la scène suivante. Puisqu'on a les Platters à la radio. Il y a un truc qui est une deuxième couche, une deuxième genèse. Et aussi. Ah ouais, oh, c'est déjà fini quasiment. J'ai fait répondre à 3 questions, putain la merde. Désolé. Il fallait m'arrêter. Putain, je suis désolé. Je ne peux rien faire, je dois laisser la place. C'est maintenant ou j'ai encore 5 minutes? C'est maintenant. All right. Une conclusion? Non, mais... Ben...